Bienvenue dans la collection Terre de Source, cultiver l'avenir.
Au fil de l'eau et des pratiques durables, une série de reportages radiophoniques réalisés avec le soutien de la collectivité Eau du Bassin Rennais.
Terre de Source, c'est un écosystème unique qui rassemble tous les acteurs autour d'un objectif commun, protéger la qualité de l'eau potable et valoriser des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement.
6 épisodes pour découvrir comment se construisent des filières locales durables, comment la restauration collective s'engage, comment l'éducation à l'alimentation responsable s'invente et comment ensemble les acteurs du territoire créent un cercle vertueux où la préservation de l'eau rime avec alimentation de qualité et avenir partagé. Bienvenue dans Terre de Source, cultiver l'avenir, une série qui explore comment se construit en Bretagne un écosystème rassemblant tous les acteurs autour d'un objectif commun, protéger la qualité de l'eau potable et promouvoir des pratiques agricoles durables. Cet épisode met en lumière une filière locale emblématique, celle du sarrasin. Plante symbole de la région, le blé noir reste pourtant importé à 70%. Terre de Source veut relocaliser cette culture vertueuse, peu gourmande en intrants et sans traitement phytosanitaire. Lancée en 2021, la filière regroupe aujourd'hui une vingtaine d'agriculteurs en bio comme en conventionnel. Le reportage aborde leurs défis, rendement, récolte, qualité et l'usage de drones pour repérer les plantes toxiques comme le datura. Ce reportage a été réalisé en juin 2024 par Louise Chevalier de la radio Canal B. Nous entendrons ensuite Flore Millet, responsable du projet Terre de Source à Eau du Bassin Rennais, qui expliquera ce qu'est une ferme Terre de Source, les critères d'engagement et l'accompagnement proposé pour réduire l'usage des pesticides.
Cette année, on a fait un bilan de campagne, donc c'est la première fois qu'on fait ça, et on s'est fixé des axes d'amélioration qui vont plutôt toucher à la qualité cette fois-ci, puisqu'on travaille aussi avec des meuniers qui sont acheteurs du sarrasin. Et l'idée, c'est d'avoir un sarrasin qui convienne aussi à leurs attentes. Il va y avoir 2 ateliers. Un atelier sur le datura. Et ensuite, il y a un deuxième atelier qui va être avec la Chambre d'agriculture, donc qui est partenaire aussi donc, de Terre de Source. Il y a différents profils. Il y a des producteurs qui sont déjà engagés dans la filière. Alors, si vous pouvez lever la main. Ce sont des producteurs qui ont déjà livré du sarrasin dans le cadre de la filière. On a des meuniers, si vous pouvez lever la main.
Je suis Hubert Coralie, je suis animatrice agricole pour le label Terre de Source et je travaille à la collectivité Eau du Bassin Rennais. L'idée d'aujourd'hui, c'est de présenter la filière sarrasin, qui est une filière 100% locale. Et les enjeux, ça va être vraiment de présenter comment nous, on apporte une sécurité alimentaire au niveau du consommateur vis-à-vis de cette culture dont il y a plusieurs enjeux. Alors, la filière sarrasin, elle a été construite en 2021. Il y a eu des premiers essais qui avaient été faits en 2020, puisqu'il faut savoir que le sarrasin, même si c'est une plante emblématique de la Bretagne, bah, finalement, 70% vient de l'importation. Donc, notre enjeu, c'est de localiser cette culture qui est emblématique de notre région. Et donc en 2021, on a commencé avec 5-6 agriculteurs et aujourd'hui on arrive à 20 agriculteurs. Donc c'est une filière qui connaît quand même beaucoup d'essor. Nous avons donc environ 15 producteurs qui vont être en agriculture conventionnelle et 9 en agriculture biologique. On travaille aussi avec donc des organismes stockeurs qui vont venir prendre la récolte, la sécher, la trier pour enlever tout ce qui va être impureté.
Mais le bilan de l'année dernière, c'est que la Zita était moins avantageuse en termes de rendement. Donc beaucoup de producteurs se sont réorientés vers la Harp, qui est la variété plus commune, on va dire. Et l'année dernière, 2 types de méthodes de récolte avaient été utilisées, le fauchage en dénage ou la moisson en direct.
Je suis Soazic Perche, je travaille à la Chambre d'agriculture et je suis conseillère en agriculture biologique.
Est-ce qu'on peut dire un mot sur le sarrasin qu'on appelle le blé noir mais qui ne contient pourtant pas de gluten?
Non, effectivement, parce que ce n'est pas une céréale en fait. C'est une polygonacée, c'est une des rares cultures qui est cultivée de cette famille-là. Donc c'est une culture qui se sème mi-mai et qu'on va récolter au plus tard fin octobre. Donc c'est ce qu'on appelle une culture à cycle très court. C'est une des cultures dans les cycles les plus courts. On a besoin de 1000 degrés à peu près en jour, en basse 6, comme on dit. Il faut une température minimum de 6 degrés. Voilà, c'est une des cultures les plus précoces et que l'on fait en Bretagne. C'est une plante qui va fleurir assez longtemps. Donc quand les gens repèrent dans le paysage des plantes qui peuvent avoir des tiges vertes en début de saison et puis avec des feuilles vertes et puis un petit bord rouge, un peu en forme de cœur, voilà, et qui va avoir un développement végétatif assez, assez intense, assez dynamique. Hein. D'une semaine à l'autre, on va voir la plante voilà, changer. Et puis, au bout de 40 jours, elle va commencer à fleurir. Hein, et donc, on va voir des petites fleurs blanches arriver. Et la plante peut faire 1 mètre, 1 mètre 50 dans les champs.
Et en quoi la culture du sarrasin protège l'eau ?
Alors, c'est une culture en fait, qui demande très peu d'intrants. Les agriculteurs ne la traitent pas. Hein. Il n'y a pas de phyto qui fonctionne correctement sur le sarrasin. Puis, comme c'est une plante quand elle est bien installée, qui concurrence très vite, on dit qu'elle a des effets allélopathiques, c'est-à-dire qu'elle fait le ménage autour d'elle. Voilà, elle empêche les autres de pousser.
Régis Bleau, donc moi je suis un co-associé du GAEC du Landier. Le GAEC, donc c'est sur la commune de Maxan, donc sur le bassin versant de Chescanu. Donc ça fait 22 ans et on est en bio depuis 2017.
Et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans la culture du sarrasin ?
Eh ben ça permet de rajouter une culture à notre rotation. Et on aime bien la galette aussi, donc avoir du sarrasin local. Nous on fait en culture principale. Donc on le sème entre le 10 et 20 mai, selon les conditions climatiques de l'année.
Et puis vous alors, en quoi ça vous accompagne d'être labellisé Terre de Source ?
Nous, Terre de Source nous permet d'avoir des contrats d'avance, d'avoir des relations avec les acteurs de la filière, entre les meuniers, ceux qui font les galettes. Donc ça nous permet d'avoir un relationnel, comme on voit là aujourd'hui à La Réunion. Donc de fixer une base, améliorer un peu le prix aussi. Des fois, quand on sème, on ne sait pas le prix qu'on va vendre. Que là, on sait le prix qu'on va vendre quand on fait la culture.
Déjà, sur le choix de la machine. Le sarrasin, on va le récolter septembre-octobre avec une moissonneuse qui récolte des céréales, normalement du blé. Donc la plupart des machines, elles ont été nettoyées dans les jetets ou les climats après les moissons. Ouais. Et il faut réussir à les convaincre d'aller remettre une machine qui vont aller labourer tout ça, qui va être bonne à renettoyer. Donc souvent, ils ont plusieurs machines. Et faut vraiment insister, moi c'est le conseil que je donne aux agris que je suis dans le groupe, c'est vraiment d'aller le plus tôt possible échanger avec vos prestataires pour qu'ils choisissent la machine qui partira sur la récolte de sarrasin.
Yannick Denoil, donc moi c'est la ferme de la Lande, on est basé à Médréac. Je suis sur une exploitation de 120 hectares avec principalement des céréales et autrement j'élève des porcs qu'on transforme et qu'on vend en grande partie sur Rennes, sur les marchés, sur le marché des Lys, à la ferme ou autrement dans plusieurs restaurants du centre-ville de Rennes. Le sarrasin c'est la culture de la dernière chance sur l'année, c'est-à-dire que c'est la dernière plante qu'on va implanter. Qu'on peut encore implanter pour une récolte sur l'année. Mais autrement, c'est vrai qu'en termes économiques, c'est une plante qui a l'avantage d'être peu coûteuse en implantation. On n'est pas fait assez en Bretagne puisqu'on importe aujourd'hui du sarrasin pour faire la farine dans les moulins, différents moulins qui sont faits qui sont en Bretagne. D'où l'idée de Terre de Source. D'avoir une dualité, c'est-à-dire de répondre à cette demande des meuniers du territoire qui demandait justement du sarrasin local, parce que le local aujourd'hui revient en force, et en même temps de pouvoir protéger l'eau, puisque le gros avantage, c'est une des plantes qui ne nécessite aucun traitement. Une culture de sarrasin, globalement, on va semer 40 à 45 kg de graines par hectare et on va en récolter entre 800 kg pour les petites années à, on va dire, ça peut aller jusqu'à 2 tonnes. Moi, en fait, je fais partie du comité de pilotage de la SIC Terre de Source et donc je suis là pour faire que il y ait d'autres exploitants qui s'inscrivent dans cette démarche, puisque nous, l'idée, c'est de multiplier le nombre d'agriculteurs qui va faire ce type de culture. J'ai une recette qui est faite, une saucisse qui est faite dans plusieurs restaurants de Rennes, qui est une saucisse avec oignons et graines de cacha. La graine de cacha, c'est le sarrasin décortiqué.
Bon voilà, ça c'est un des points, le batteur le moins vite possible, ouvrir un peu l'écartement comme batteur, contre-batteur. Un autre point tout bête que j'ai encore vu l'année dernière, le contre-batteur, donc c'est en dessous du batteur pour tout le monde. Vous avez plusieurs types, vous en avez des maïs, vous en avez des mix, vous en avez des céréales, vous venez avec un montage maïs pour raconter du sarrasin, donc c'est des gros écartements, tout passe au travers. Il y a encore eu l'année dernière une image qui était batteur mixte. céréales maïs, et les fils sont, et les trous sont trop gros, finalement vous faites descendre des graines et des tiges. Donc essayez de rester sur des batteurs, des contrebatteurs assez petits, de contrebatteurs céréales.
Moi c'est Arnaud Chanard, donc je suis le gérant du Moulin de la Fatigue et gérant également du Moulin de Quincampoix à Rémoux, où on écrase à peu près 25 tonnes de sarrasin conventionnel et autant en bio. Avant tout ça, effectivement, on va réceptionner un produit qui va être stocké en préalable et nettoyé, et on va en faire une mouture. Ensuite, on va l'ensacher et le livrer à nos clients. Entre autres, pour nous, c'est les crêperies essentiellement, hein, et un petit peu en sachet kilo pour la grande distribution, les magasins locaux. L'avantage d'être labellisé Terre de Source, c'est surtout l'aspect local. Hein, et ensuite, avoir un label fort avec une protection de l'eau, une vraie traçabilité, un cahier des charges fort auprès de nos producteurs. Ensuite, derrière, ça encourage le consommateur à protéger l'environnement. Une bonne galette, c'est juste de la farine, de l'eau et du sel. Donc, et un peu de savoir-faire. Donc
dans le sarrasin, ce qu'on fait de base, c'est un vol pré-récolte le plus tôt, le plus proche possible de la récolte, quelques jours avant, 8 à 12 jours avant la récolte. On livre les cartes en 3 jours et on va détecter et géolocaliser. Chaque détection est géolocalisée au sein de l'image pour vous livrer sur une application smartphone la géolocalisation des datures.
Donc le datura, c'est une plante qui va venir pousser en même temps que le sarrasin et qui est toxique à cause donc de ses graines qui vont venir se mélanger avec les graines de sarrasin si jamais il y a éclosion donc des bourgeons, mais aussi donc les fleurs et les tiges sont toxiques. C'est pour ça que c'est important d'avoir un survol par drone de nos parcelles pour éviter de se retrouver à avoir des graines qui peuvent se mélanger à notre récolte. Donc c'est vraiment un signe de qualité d'avoir cette outil.
On vous invite à prendre une bière ou autre chose, des boissons Terre de Source, donc à nous retrouver autour de la table où on était tout à l'heure.
Bonjour, je peux savoir ce que vous buvez?
Une petite bière ambrée, sarrasin.
Et alors, ça a quel goût la bière au sarrasin?
Je la trouve bonne en fait.
Elle est très bonne, ça change de d'habitude.
Voilà pour ce reportage sur la filière sarrasin qui illustre la volonté des agriculteurs de faire évoluer leurs pratiques et de produire autrement. Un engagement qui s'inscrit pleinement dans la démarche du label Terre de Source qui soutient les transitions agricoles tout en valorisant les productions locales. Pour prolonger ces échanges, Morgane Soularue, journaliste à Canal B, reçoit Fleur Millet, responsable du projet Terre de Source à Eau du bassin rennais. Elle revient sur les outils concrets mis à disposition des agriculteurs, le rôle du label, mais aussi le marché public ouvert depuis 2015 qui facilite l'accès des produits Terre de Source aux restaurations collectives.
Bonjour Fleur Millet.
Bonjour Morgane.
Vous êtes responsable projet Terre de Source au pôle protection de la ressource à la collectivité Eau du bassin rennais, l'autorité organisatrice du service de l'eau potable sur le territoire. Pour rappel, le label Terre de Source est une initiative d'Eau du bassin rennais qui soutient et encourage les bonnes pratiques agricoles en valorisant les productions et en offrant de nouveaux débouchés, alors notamment au travers des restaurations collectives, marché public ouvert depuis 2015, au travers également d'une labellisation et d'une marque, et enfin au travers de nouvelles filières et de nouvelles productions comme le sarrasin. On entend par bonne pratique agricole celle qui préserve l'environnement et protège l'eau potable grâce à un mode de production plus vertueux, des pratiques agricoles qui émettent donc le moins possible d'engrais azotés et de nitrates, d'antibiotiques pour ce qui concerne l'élevage et de pesticides pour respecter les zones de captage des eaux distribuées aux particuliers. Devenir une exploitation plus respectueuse de la nature, de l'environnement, demande des efforts, des investissements et parfois même un changement de paradigme. Il y a un cahier des charges aussi à respecter. Fleur Millet, concrètement, qu'est-ce qu'une ferme Terre de Source en transition ?
Alors au préalable, Terre de Source, c'est un territoire. C'est un territoire qui est défini par les aires d'alimentation de captage de la collectivité Eau du bassin rennais, mais aussi de deux autres syndicats d'eau qui sont partenaires de la démarche, qui sont Eau du pays de Fougères et Eau des portes de Bretagne. C'est aussi un consortium de 7 EPCI qui sont dans le territoire et qui ouvrent leur territoire finalement à une agriculture terre de source.
EPCI pour établissement public de coopération intercommunale, c'est ce qu'on appelait autrefois l'intercommunalité.
Les communautés de communes. Donc déjà, une exploitation agricole ou une ferme terre de source, elle est sur ce territoire-là. Ça, c'est le premier point, le premier critère de validation. Il faut que l'agriculteur il soit situé sur le territoire ouvert par Terre de Source. Ensuite, Terre de Source, c'est bien une démarche volontaire d'un agriculteur. Donc, c'est lui qui souhaite s'engager dans la démarche. Et pour ça, dès lors qu'il manifeste son engagement, il doit respecter des critères d'entrée. Et ces critères d'entrée, c'est l'interdiction d'utilisation de 4 molécules qu'on retrouve principalement dans des herbicides, notamment en prélevé du maïs et du colza. Donc dès lors que l'agriculteur situé sur le territoire Terre de Source décide de s'engager, il arrête l'utilisation de ces molécules-là. Et ensuite, on réalise un diagnostic sur son exploitation, c'est-à-dire qu'on va aller faire une photographie à l'instant T de son engagement, de l'engagement de son exploitation sur les 3 critères du développement durable, le critère social, le critère environnemental et le critère économique. Une fois que ce diagnostic est réalisé, on sélectionne avec cet agriculteur une douzaine de critères qui vont lui permettre de progresser, donc de s'engager dans un plan de progrès pour qu'il puisse in fine, à 3 ans, à 6 ans, diminuer l'usage de produits phytosanitaires, donc de produits de pharmacie finalement pour l'agriculture, diminuer l'impact nitrate de son exploitation agricole et après sur d'autres critères liés à l'élevage dès lors qu'il valorise des produits issus de son atelier d'élevage.
Combien de temps en moyenne, si vous avez assez de recul pour nous le dire, ça peut prendre à partir du moment où l'exploitant, l'exploitante décide de se lancer dans Terre de Source ?
Alors, on a des critères d'engagement et des plans de progrès qui se réalisent sur 6 ans, avec des points d'étape à 3 ans et évidemment des contrôles tous les ans. Donc, l'agriculteur, pour aller atteindre son objectif final, il peut mettre 6 ans, mais il peut aussi mettre 1 an, 2 ans, 3 ans. Tout dépend de là où il part et de l'objectif qu'il doit atteindre, en sachant que vraiment l'intérêt de Terre de Source, c'est d'accompagner toutes les fermes du territoire, peu importe où elles se trouvent finalement. Et l'objectif, c'est bien d'accompagner les agriculteurs à diminuer leur usage de pesticides. Donc ça veut dire que sur chacun des territoires, il y a une moyenne qui est fixée d'utilisation des produits phytosanitaires. Et nous, on demande à nos agriculteurs de réduire de 50% cette moyenne globale. Donc, tout dépend de son point de départ pour fixer son point d'arrivée. Et après, nous, notre travail, c'est bien de l'accompagner par divers moyens, avec une boîte à outils, aller atteindre ses objectifs.
Dans cette boîte à outils, quels sont les soutiens, les démarches que l'agriculteur peut trouver ?
Alors, il y a plusieurs outils et ils s'adaptent vraiment en fonction, un, de la typologie de l'exploitation et du plan de progrès, mais aussi de la volonté de l'agriculteur, hein, puisqu'on le rappelle, c'est bien une démarche volontaire. Le premier outil qui a été développé, c'est bien le label Terre de Source. Le label, il labellise à la fois une exploitation agricole, donc d'un agriculteur qui s'engage dans la transition, mais il labellise sur certaines filières pour lesquelles il y a un cahier des charges de produits. Il labellise aussi des produits. Et du coup, de labelliser le produit, ça permet au consommateur d'identifier que le produit il est fait avec des matières premières qui sont issues d'une exploitation en transition. Donc déjà, c'est de mettre en avant le travail de l'agriculteur via ce label. Ça, c'est une première chose. Une seconde chose, c'est le marché public que vous avez évoqué juste à l'instant, qui permet de faciliter l'accès des producteurs locaux aux restaurations scolaires locales et par un marché public de prestations de protection de la ressource en eau. Finalement, on va permettre aux cantines du territoire de privilégier l'accès à ces agriculteurs qui sont dans une démarche de progrès. Un troisième outil, c'est une SIC Terre de Source. Donc ça, c'est un outil économique qui permet de mettre en lien acheteurs et producteurs à travers une plateforme logistique, mais une plateforme commerciale aussi, qui va faire le démarchage finalement des cantines ou de tout autre type de débouché pour les agriculteurs qui s'engagent et qui adhèrent à cette SIC Terre de Source. Et ensuite, il y a toute la mécanique des filières qu'on met en place et pour lesquelles, là, on fait intervenir des transformateurs, on fait intervenir des vendeurs, on fait intervenir des magasins et finalement, on structure les filières pour aller trouver des débouchés aux agriculteurs sur des produits qui ne rentreraient pas sur les marchés des collectivités.
En termes de marché public, il y a donc les cantines du territoire depuis 10 ans. Est-ce qu'il y a d'autres restaurations collectives qui se sont ouvertes à Terre de Source ?
Alors, il y a effectivement les cantines prioritairement parce que c'est vrai que les communes ont à cœur de valoriser l'engagement de leur engagement auprès des agriculteurs du territoire au travers la cantine des enfants. Et c'est souvent dans la compétence des communes, ce qui ouvre le plus de repas finalement au marché des producteurs. Mais pour autant, les communes et les collectivités ont la compétence de la restauration collective, que ce soit pour les écoles, pour les crèches, pour les EHPAD, pour les centres hospitaliers et pour tout un tas d'autres, pour la restauration des agents des collectivités. Donc en fait, finalement, toute la restauration qu'on appelle collective, elle est de la compétence parfois de la commune, parfois de l'EPCI, et donc elle permet un débouché aux agriculteurs engagés dans la démarche Terre de Source. Après, il y a d'autres restaurations collectives qui sont les collèges, qui sont les lycées, qui sont de la compétence des départements ou des régions. Donc là, on interpelle aussi le département, on interpelle aussi la région pour aller promouvoir les produits issus de l'agriculture locale et trouver des débouchés à nos agriculteurs. Et ensuite, il y a toutes les restaurations, les sociétés de restauration, pardon, qui peuvent aussi s'approprier la démarche Terre de Source, qui peuvent aussi valoriser l'engagement des agriculteurs de territoire à travers la restauration collective, qui est plutôt une restauration collective d'entreprise ou plus privé, mais qui peut aussi être un débouché qui compte pour nos agriculteurs.
Est-ce qu'on sait combien d'exploitations sont engagées dans ce processus de Terre de Source pour devenir une ferme, une exploitation irréprochable en termes de labellisation Terre de Source ?
Alors aujourd'hui, on a environ entre 120 et 150 agriculteurs qui sont engagés dans la démarche Terre de Source. Dans ces 150 agriculteurs, il y en a les deux tiers qui sont des exploitations ou des agriculteurs bio. Un agriculteur bio, pour s'engager dans la démarche Terre de Source, il faut que son exploitation elle soit située sur le territoire Terre de Source, mais lui n'a pas de diagnostic ni de plan de progrès à faire. En fait, on considère que dès lors qu'il est engagé en agriculture biologique, Terre de Source est un levier pour lui trouver des débouchés valorisés et pour qu'il maintienne son engagement dans le territoire, dans l'agriculture biologique, pardon. Donc c'est vraiment un moteur pour trouver des débouchés valorisés aux agriculteurs bio et soutenir le bio sur le territoire, voire même de développer le bio, puisqu'on a certains agriculteurs en transition qui vont jusqu'à se convertir vers l'agriculture biologique. Donc ça, c'est un premier point. En termes d'agriculture en plan de progrès, d'agriculteurs conventionnels en démarche de progrès Terre de Source, on a du coup une quarantaine d'agriculteurs aujourd'hui. L'objectif, c'est d'atteindre 750 exploitations agricoles à l'horizon début 2029. Donc on a encore un champ d'action qui est ouvert pour pouvoir aller convertir nos agriculteurs.
Vous parliez de territoire. Est-ce qu'on peut connaître les limites de ce territoire si on en connaît aussi la superficie pour d'où à où, d'est en ouest, du nord au sud, où va-t-il ?
Alors, dans les grandes masses, et je vous invite à aller sur le site internet de Terre de Source pour avoir le détail, mais en fait, on va sur les limites de la Rance, puisque nous, notre bassin versant, dans le nord, il est porté par le barrage de Rofemel. Et de fait, on a tout ce territoire de bassin versant autour de Rofemel qui déborde un petit peu dans les Côtes d'Armor. Au sud, on est sur le bassin versant de Chesse-Canu, donc on embarque Brocéliande, les communautés de communes de Brocéliande. Au nord, notre limite, c'est le bassin versant du Couesnon, donc sur la zone de Fougères. Donc ça, c'est vraiment les trois bassins versants de la collectivité du bassin rennais. Mais finalement, on embarque aussi tous les territoires qui permettent d'être en continu sur nos trois bassins versants grâce à l'engagement des EPCI qui s'engagent dans Terre de Source au titre de leur compétence R. Parce que finalement, on s'est rendu compte que toutes les mesures qu'on mettait en place pour protéger la ressource en eau, elles avaient un bénéfice pour la protection de la ressource, pour la protection de l'air, pardon, de la qualité de l'air. Et de fait, les EPCI, au titre de leurs compétences de protection de l'air, elles s'engagent dans Terre de Source et du coup, elles nous permettent d'élargir le territoire.
Quelles sont les problématiques concrètes rencontrées par les agriculteurs qui ont cette démarche d'aller vers du mieux produire ?
Alors la problématique concrète, elle est liée au fait qu'aujourd'hui, les agriculteurs, ils sont tous prêts à s'engager dans le changement, ils sont tous prêts à modifier leurs pratiques et à diminuer l'usage de phyto, mais il faut que ça soit rémunérateur. De fait, on est confronté à ces problématiques comme tout autre. Le fait d'avoir développé un label nous permet quand même d'apporter une valeur ajoutée au produit et donc d'aller chercher le consentement à payer du consommateur. Mais on se rend bien compte que ce n'est pas suffisant. Et pour vous donner un exemple, un agriculteur qui s'engage, par exemple, dans Terre de Source, il n'engage pas uniquement la culture qu'il va valoriser, mais il engage bien l'ensemble de sa surface agricole. Du coup, si sur l'ensemble de sa surface agricole, qui est en moyenne 80 hectares sur nos exploitations du territoire, s'il n'engage que 5 hectares, par exemple, dans le blé noir, eh ben, il va devoir diluer l'engagement sur uniquement 5 hectares, alors que c'est l'ensemble de ces 80 hectares qui vont contribuer à l'engagement Terre de Source. Du coup, la culture de sarrasin, bien qu'on engage des meuniers, bien qu'on engage des galetiers à payer un petit peu plus cher le sarrasin, le sarrasin, il ne va pas couvrir la totalité de l'engagement financier ou de l'engagement, en tout cas, de l'agriculteur dans la démarche Terre de Source. Donc, tout notre travail, c'est d'aller trouver des leviers de valorisation économique. On parle du sarrasin, mais nous, notre objectif, c'est de bien valoriser l'ensemble des produits issus de l'exploitation agricole. Donc d'engager les agriculteurs dans la diversification de leur activité, mais à condition d'apporter une valorisation économique à chacun des ateliers de valorisation.
C'est compliqué quand... Au niveau national, on vient de voir passer la loi Duplomb qui va complètement à l'encontre de la démarche Terre de Source. Est-ce que c'est, alors pas un coup d'arrêt, mais en tout cas peut-être un coup de bambou sur la tête de Terre de Source d'avoir vu cette loi passer ?
Ça nous renforce encore plus dans nos engagements, finalement, parce qu'on se dit que c'est de notre compétence et de notre volonté de soutenir ces démarches-là. Oui, c'est un coup dur de ce retour en arrière. On sait ô combien les ressources en eau sont polluées, et pas seulement chez nous, partout en France, c'est un problème national. Et les principales polluants, ce sont des molécules de pesticides. Donc oui, c'est un coup dur. Néanmoins, ça nous renforce dans notre engagement, ça nous renforce dans le fait que c'est peut-être de la compétence des collectivités, ou en tout cas de la responsabilité des collectivités, d'accompagner les agriculteurs ou de trouver des leviers économiques pour accompagner les agriculteurs, de débloquer des débouchés sur les marchés publics, d'aller favoriser au mieux le rapprochement entre consommateurs et producteurs, de faire prendre conscience peut-être aux consommateurs que finalement l'agriculture elle est sur son territoire et qu'il a son rôle à jouer aussi en allant sélectionner ses produits chez des agriculteurs qui font des efforts pour la protection de l'environnement.
On parlait consommation. Est-ce que depuis 10 ans maintenant que Terre de Source est entrée dans les cantines locales, vous avez du retour sur, je pense aux parents d'élèves notamment, qui ont dû constater le changement. Est-ce que vous avez des retours de ces consommateurs-là ?
Alors... Depuis 10 ans, effectivement, il y a des produits Terre de Source dans les collectivités. Il n'y avait pas forcément depuis 10 ans de la communication ou de l'information aux élèves. C'est aussi un de nos gros chantiers, c'est d'aller mettre en avant les initiatives qui sont réalisées par les communes, par les agents dans les cantines, par les parents d'élèves quand ce sont des associations qui font la promotion de produits Terre de Source. Donc ça, c'est un chantier qui doit être encore plus mené maintenant. Il y a des animations qui sont réalisées dans les cantines qui proposent des produits Terre de Source, où justement on crée ce lien entre agents, élus, parents d'élèves et agents de restauration pour mettre en avant les initiatives et valoriser les engagements des communes. Et dès lors que c'est su c'est évidemment apprécié. C'est même demandé par les communes, par les parents d'élèves des communes alentour. Donc oui, quand c'est su, évidemment qu'on crée l'adhésion. Mais on doit encore mieux faire connaître la démarche à l'ensemble des consommateurs et des convives du territoire.
Merci Fleur Millet.
Merci à vous.
Vous venez d'écouter un reportage de la collection Terre de Source, cultiver l'avenir, réalisé avec le soutien de la collectivité Eau du Bassin Rennais.
Une production des radios adhérentes à la Corlab, la coordination des radios locales et associatives de Bretagne, à retrouver en ligne sur le site corlab.org.